au nom du secret défense. Cependant, on ne peut qu'y lire qu'une tentative d'intimidation, car légalement, la justice donnerait raison aux journalistes et au secret des sources. Ces pratiques sont inquiétantes, car même si nous ne sommes pas en dictature, il apparaît que le pouvoir refuse totalement d'être légitimement scruté et adopte des pratiques franchement autoritaires. Cette manœuvre montre tout de même une certaine maladresse, puisque si ces pratiques sont monnaie courante pour les journalistes du Canard Enchaîné ou de Mediapart, le pouvoir s'en est pris à des médias plus modérés et souvent complaisants avec le pouvoir. Un indice concernant la crispation actuelle.
...11h50 sur Transistor, tout de suite l'actualité de l'éducation. C'est avec toi Arthur, bonjour.
Bonjour.
Journal radiophonique amplifié, sur le chemin de l'école, avec Arthur.
Alors de quoi est-il question aujourd'hui ?
Eh bien on va parler de Parcoursup. Avec ses exigences et sa logique sélective, le portail Parcoursup, ouvert depuis mi-janvier pour la deuxième fois de son existence, se révèle être une aubaine pour le marché florissant et peu réglementé de l'orientation scolaire qui sort sur l'angoisse des familles. Fondatrice en 2009 de tonavenir.net, Sophie Laborde-Baleine assure que son activité a progressé ces derniers mois de 25 à 30% par rapport à 2018. Studierama, Diploméo, Quiétude, Recto Versois, tous se frottent les mains également. Clairement, les candidats sont inquiets de ne pas obtenir la formation qu'ils veulent, résume Clotilde Duménil, fondatrice de Cowin Coaching, pour expliquer cet afflux. Présents pour la plupart depuis des années sur le créneau, les acteurs privés tirent un sacré profit des nouvelles règles qui accompagnent Parcoursup depuis l'an dernier. En plus de formuler ses vœux, chaque élève doit désormais rédiger, pour toutes les formations demandées, y compris universitaires, une sorte de lettre de motivation et parfois un curriculum vitae, avec l'obligation de prouver qu'il répond aux attendus fixés par la filière visée. Des exigences dont peu de lycéens ont l'habitude, et qui donnent à la procédure d'inscription des allures de compétition entre postulants, le tout sur fond d'université aux capacités d'accueil incertaines. Les boîtes de coaching en ont fait illico un argument de vente, et se propose de booster les dossiers afin de mieux se démarquer de la concurrence de son voisin. À ce jeu-là, les tarifs et le grotesque marketing atteignent des sommets. Le site tonavenir.net vend ainsi un box cadeau dédié à l'orientation scolaire qui propose des formules allant de 250 à 620 euros. Mais son produit phare reste le pass sérénité, une prise en charge totale des inscriptions à Parcoursup avec 2 heures d'entretien, l'écriture des lettres de motivation et même la rédaction des vœux sur le portail, le tout pour 560 euros, ça va. Le site va jusqu'à garantir l'inscription tout en précisant, filou, qu'il ne s'agit pas là d'une garantie au sens juridique du terme. D'autres acteurs du marché sont plus subtils pour grossir leur chiffre d'affaires. Prenez StudiAdvisor. Cette plateforme internet créée en 2016 permet aux lycéens d'avoir au téléphone un étudiant inscrit dans la filière qu'il vise, d'écouter les conseils éclairés de son aîné et d'obtenir à la fin une recommandation d'orientation. Le tout gratuitement. Mais où est l'embrouille alors ? Bah, tout simplement dans la suggestion faite par l'étudiant. Par l'étudiant, StudiAdvisor est rémunéré à chaque fois que l'élève est envoyé vers un établissement privé avec lequel a été conclu au préalable un partenariat. Devinez quoi ? 40% des quelques 40 000 jeunes orientés par cette plateforme en vogue ont atterri dans le privé, qui ne pèse normalement que 18% au niveau national. Hein. Vraiment pas de bol. Hein. Autant de pratiques dénoncées par le syndicat général des lycéens. Toutes ces entreprises surfent sur le désespoir des parents et profitent de ce que ne fait pas ou mal l'éducation nationale, déplore Thomas Lecor, porte-parole de l'organisation. Aujourd'hui, les centres d'information et d'orientation, les CIO, ferment en nombre. Alors dans les faits, la mission d'orientation retombe sur les professeurs principaux, peu formés au labyrinthe de l'orientation. Ainsi, les heures d'entretien individuel et autres bilans personnalisés proposés par les officines privées apparaissent comme des solutions alléchantes pour les familles. Du moins, celles qui peuvent se le permettre. Sans surprise, les clients du coaching scolaire sont en majorité des jeunes dont les parents sont cadres du secteur privé. Le creusement des inégalités à la part belle. Quant aux boîtes de soutien privé, elles ont toutes les raisons de croire en l'avenir.
Et si le service public ne remplit pas son rôle dans l'orientation et l'accompagnement, il est clair que l'argent apparaîtra comme un facteur de plus en plus crucial pour accéder à des conseils éclairés et faire les bons choix, Arthur.
Bah oui, tout à fait. Mais cette perspective ne semble pas du tout inquiéter outre mesure le gouvernement. Hein. Face à l'explosion de ce marché privé de l'orientation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche envisage de créer un label pour aider les familles à y voir plus clair. Label qui garantit la gratuité de la prestation et le but non lucratif de l'entreprise. Bon, pour l'instant, seules 2 plateformes ont été retenues, Inspire et les Cordées de la Réussite. Bref, pas de quoi inquiéter la multitude de start-up qui arpentent avec plus ou moins de compétences ce nouvel Eldorado. Au contraire, loin d'être régulé, le marché privé de soutien scolaire est encouragé et subventionné par l'État. Depuis 2006, le recours à ces entreprises dont l'activité est assimilée à la catégorie des tâches ménagères ou familiales donne droit à un crédit d'impôt égal à 50% des sommes engagées. Le taux de TVA est également réduit à 10%. En clair, rien n'est fait pour calmer les ardeurs des vendeurs d'orientation scolaire. Et peu de chances de voir l'exécutif s'atteler sérieusement au problème. Au fond, le développement de ce secteur colle bien à la philosophie néolibérale et individualiste de ce gouvernement qui voudrait que chaque élève soit l'entrepreneur de sa vie, qu'il construise dès la fin du collège son parcours dans une optique utilitariste qui serve le marché. Mais en attendant, c'est le business des coachs de tout poil qui est bien servi.
Le journal radiophonique amplifié
sur Transistor.
Merci beaucoup Arthur, on remercie également un autre Arthur qui a contribué à l'élaboration du journal, je l'ai oublié tout à l'heure. Et puis on salue Maxime qui, in extremis, n'a pas pu nous rejoindre pour son édito scientifique, de sorte que nous passons tout de suite à, pas à la culture en fait, puisqu'il y a une chanson d'actualité avec Colline.
C'était un vrai conte de fées quand on t'a vu débarquer. Un look d'enfer, une poigne de fer et une bonne dose de savoir-faire. Tu étais si grand au-dessus des migrants à reconduire systématiquement. Mais maintenant, Laurent, c'est toi qui pars. Démission sans espoir. Tu pars, tu-du-du-tu, tu-du-du-tu. Prépare ton pot de départ, tu-du-du-tu, tu-du-du-tu. Ta parka rouge sur les chantiers nous a très vite fait déchanter. Tous tes copains t'ont lâché. Valoche, Cri-Cri et même Xavier. Sainte-Sœur Manu n'était pas là pour te prendre dans ses bras, absoudre tes péchés. Bullshit à la télé. Tous ces petits cons de l'EM Lyon t'ont fait passer pour un bouffon trop tard. Tu pars, prépare ton pot de départ. Un an à la tête du parti et te voilà sur le tapis. T'avais parié sur Belle Amie, mais les électeurs sont partis chez ta super copine qui nous baratine. On sait que tu craques sur Marine et qu'elle admire tes vieilles racines de cheveux. Tu-du-du-tu, tu-du-du-tu. Poivre et sel forever. Tu-du-du-tu, tu-du-du-tu. Tu pars. Démission sans espoir. Prépare ton pot de départ. Démission des républicains, ne t'arrête pas de bon chemin. Si tu pouvais partir demain de la région, ce serait bien.
Merci beaucoup Colline pour cette petite chanson d'actu. Et cette fois-ci, promis, je crois que je n'oublie plus personne en route. On passe donc à la culture, c'est avec Léa et de nouveau toi Colline.
Et oui. sorcière, personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels, et en particulier la faculté d'opérer des maléfices avec l'aide du diable ou de forces malfaisantes, nous dit le trésor de la langue française. Quand on nous dit sorcière, on pense aussi nez crochu surmonté d'une verrue, rire machiavélique et méchante reine dans les Disney, ou du moins on pensait nez crochu, verrue et méchanceté. Car les contours de cette figure stéréotypée se sont assouplis pour former une figure plus complexe, plus insaisissable, mais toujours porteuse d'une charge symbolique immense. Depuis les années 70, ce sont les féministes qui revendiquent cette image, la colorant d'une teinte à la fois politique et spirituelle, avec le fleurissement de slogans comme « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler ». Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé de toutes les brûler. Elle a voulu avorter, brûlez-la. Elle ne veut pas se marier, brûlons-la. Elle est vieille, brûlons-la aussi. Elle guérit les gens, crime infâme, brûlons-la. Elle ose se plaindre d'avoir été violée, noyons-la cette fois, pour varier un peu. Bref, en Europe, ce sont entre 50 000 et 100 000 personnes qui ont été exécutées pour sorcellerie. Et la majeure partie de ces personnes étaient, de manière surprenante, des femmes. Car oui, le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, sorte de guide pratique pour se débarrasser des sorcières, publié en 1487 par deux dominicains dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, avait prévenu « Les sorciers sont peu de choses, disent-ils, c'est de la malice des femmes qu'il faut se libérer, car alors, même en ne disant rien des sorcières, le monde serait libéré d'innombrables périls ». Certains juges semblent avoir interprété cette injonction à la lettre. Ainsi, la campagne menée entre 1587 et 1593 dans 22 villages des environs de Trèves en Allemagne fut si zélée que, dans deux d'entre eux, elle ne laissa plus qu'une seule femme encore en vie. Et oui, forcément, on en avait brûlé 268. Les manifestations de leur malice, quelles étaient-elles ? Mona Chollet les a mises en évidence dans sa belle étude « Sorcières, la puissance invaincue des femmes ». Ces sorcières maléfiques étaient en grande partie des femmes, donc issues de classes populaires, guérisseuses trop remuantes ou au verbe trop haut, comme elle le dit. Avoir le verbe haut pouvant notamment désigner tenter de dénoncer un crime perpétré par des hommes comme un viol ou des cas de harcèlement sexuel. De quoi redonner tout son cynisme à la prétendue chasse aux sorcières dénoncée par les détracteurs du mouvement MeToo, mais je m'égare. Eh bien, cette figure de la sorcière, elle est ainsi réinvestie et travaillée par les quatre actrices du collectif Marthe, issues de l'école de la Comédie de Saint-Étienne, dans leur magnifique pièce « Le monde renversé ». Quand on rentre dans la salle, elles sont déjà là, sur scène, montrant des reproductions de femmes, allant de la dame à la licorne à des images de vagins disséqués. Sur la droite, un panneau avec des titres énigmatiques « Marx, on a quelques mots à te dire » ou encore « Procès de Marthe ». Puis les lumières de la salle s'éteignent et tour à tour, les quatre actrices, Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnot, Aurélia Lucher et Ito Medawi, incarnent la figure de Marthe, accusée de sorcellerie dans un village du Berry. Elles mettent aussi en scène d'autres personnages dans un va-et-vient entre les époques qui s'efforcent de retracer la manière dont, finalement, on en est arrivé là. La pièce est inspirée de l'essai de Silvia Federici, Caliban et la sorcière, dont la thèse est que ce qui se joue à travers la chasse aux sorcières au 16e et 17e siècle, c'est le rôle social des femmes et leur assignation à des tâches bien définies, au premier lieu desquelles la reproduction du corps social, faire des enfants quoi. Elle met en évidence ce qu'elle considère être un impensé du marxisme, à savoir l'appropriation du corps des femmes, et montre comment la constitution progressive du capitalisme s'accompagne d'une régulation de la procréation et d'une mise à l'écart des femmes de certains métiers. Cette thèse est magnifiquement portée dans Le Monde renversé, qui nous explique tout ça et bien d'autres choses, dans un texte très fin et une mise en scène enlevée, qui joue sur différents registres, allant d'une précision glaciale et chirurgicale lorsque sont évoquées les violences gynécologiques, à un humour loufoque lorsque Foucault et Marx sont interrogés par une conférence. Bref, on attend avec impatience la prochaine création du collectif Marthe, et ce sera Tiens ta garde en 2020. Donc il faudra attendre un peu, mais je suis sûre que ça en vaudra la peine. Et donc, Colline, tu vas nous parler d'une série, c'est ça ?
Tout à fait. Aujourd'hui, je vous parle de Calls, cette série de Timothée Hochet, création originale de Canal+, dont la deuxième saison a débuté il y a quelques semaines. Calls, c'est, selon son bien trouvé slogan, la première série qui s'écoute. Les épisodes sont assez courts, oscillant entre 10 et 20 minutes, et tous sont présentés comme des fichiers son récupérés à droite et à gauche. Appels téléphoniques, boîtes noires, enregistrements personnels. À des dates différentes, la première saison convoque des fichiers allant de 1999 à 2028. L'ambiance est franchement angoissante et la saison 1 construit une sorte de fin du monde inéluctable et en même temps incompréhensible dans toute sa lumière. Chaque épisode est autonome et de nombreux comédiens et comédiennes prêtent leur voix et leur talent pour la réalisation des 20 épisodes qui existent à ce jour. Bon, je tourne autour du pot, mais la grande particularité de la série, c'est bien sûr qu'il n'y a pas d'image. L'écran est noir, du son et pas d'image. Un pari qui fonctionne, l'audience et les critiques sont là pour en témoigner. Mais l'écran est-il si noir que ce que voudrait nous en faire croire? Cette série qui s'écoute pourrait-elle être transposée telle qu'elle en fiction de France Culture par exemple ou en podcast dans nos oreilles?
Madame? Madame? Madame, vous êtes toujours là? Votre poche et lui dire que vous avez appelé la police. Vous lui dites pas que vous êtes en ligne avec nous. D'accord? Vous avez compris? Vous m'entendez? Allô, madame?
J'ai appelé la police! J'ai appelé la police, ils arrivent en 30 secondes!
Il faut se dépêcher là, il a défoncé la porte, c'est dangereux.
Nous venons d'entendre un extrait de l'épisode 3 de la saison 1, épisode particulièrement angoissant pour ceux qui s'en rappellent. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'à l'écran s'affiche le nom des personnages et ce qu'ils disent. Tout est écrit, et lorsqu'on ne comprend pas ce qui est prononcé, est indiqué entre crochets, inaudible. Plus si noir, l'écran finalement. En tant que spectateur de cette série, nous suivons les dialogues à la fois à l'oreille, mais aussi écrits à l'écran. Que penser de ce choix visuel? Est-ce une simple aide? Une béquille sur laquelle s'appuyer lorsque notre oreille nous fait défaut? Qu'on n'est pas en mesure d'entendre correctement les dires des personnages? Est-ce prendre l'auditeur slash spectateur pour plus bête qu'il n'est et croire que sans cette aide visuelle, il ne saurait pas qui parle et quand? Ça, je ne peux pas le croire ni l'envisager. La radio a montré depuis longtemps que nous sommes capables de suivre une conversation entre deux ou trois personnes uniquement à l'audio et nous repérer sur les personnes qui parlent. Timothée Hochet ne nous ferait pas l'affront de ne pas croire au pouvoir de l'écoute. Au contraire, Calls, c'est de la télé, bien de la télé et heureusement de la télé, et pas une série MP3. Je vais devoir, à regret, contredire ce si joli slogan. Calls est une série qui se regarde passionnément, une série qu'on scrute, qu'on observe. En plus des dialogues, l'écran se meut d'infimes variations de couleurs, de raies de lumière, de taches claires. Cet écran nous attire, car il cache quelque chose. Je défie quiconque d'écouter Calls alors qu'il est en train de faire de la vaisselle, de passer le balai ou de faire des sudoku. C'est impossible. Calls est une série qui n'existerait pas, ou qui existerait autrement, sans l'image. C'est l'image, même lacunaire, qui crée l'angoisse et le sentiment grandissant de stress. Il nous manque quelque chose. Quelque chose nous échappe, nous file devant les yeux. Calls nous prive de la vue, là où les fictions radiophoniques s'accomplissent pleinement et entièrement dans l'audio. Calls nous ampute d'un sens, et c'est cette angoisse qui rebascule notre attention sur l'ouïe, qui est aussi lacunaire et soutenue par le support visuel des lignes de dialogue. Enfin, cette série qui s'écoute et se regarde, mais qui intensifie les deux modes de réception par ses failles volontaires, ne serait pas la même sans le contexte qui accompagne ces enregistrements. Ils ne sont pas présentés comme des fictions, mais comme des témoignages d'un monde passé, notre monde, dans ce qu'il peut avoir de complexe, d'horrifique, d'étrange. Nous sommes spectateurs d'un dossier top secret, tout en ne sachant pas qui a collecté ces sons, pour quelle exploitation et dans quel contexte actuel. Une série, donc, qui se regarde et qui s'écoute, pour éprouver encore le bonheur d'avoir peur dans le noir, c'est sur Canal+, et vous pouvez dès à présent vous ruer sur la saison 1 et 2. Le journal radiophonique amplifié, sur Transistor.
Merci beaucoup Colline et Léa pour ce journal de la culture. Avant une petite chronique musicienne que vous attendez avec une impatience mal contenue de l'autre côté de votre poste, on fait quelques petits détours par l'actualité de la radio.
Onde courte.
Triste nouvelle cette année encore, puisque la fin de la saison radiophonique apporte son lot de suppressions, d'émissions. Après Là-bas si j'y suis, arrêté avec fracas il y a 5 ans, c'est au tour de son rejeton Comme un bruit qui court d'être en danger cette année. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de l'émission, laissons tout de suite la parole aux trois producteurs, Antoine Chao, Charlotte Perry et Guy Anctil. C'était pour la toute première le 30 août 2014.
Un bruit
qui court.
Bonjour et bienvenue. Comme un bruit qui court, c'est le nouveau magazine de reportage de France Inter.
À coup d'enquête, de portraits et de voyages sonores, une heure de reportage à feu et à son pour saisir le sens des luttes.
Comme un bruit qui court, c'est la rumeur des contestations sociales, la vibration des nouvelles alternatives qui s'inventent.
Comme un bruit qui court.
En cette rentrée, Là-bas si j'y suis n'est plus sur l'antenne. Ça ne vous aura pas échappé à nous non plus.
Antoine Chao.
Nous y avons travaillé tous les trois de nombreuses années et nous continuerons sur France Inter de porter la voix de ceux qui luttent ici et là-bas.
C'est donc une nouvelle aventure radiophonique qui commence pour nous et pour vous.
Givanctil.
Une nouvelle émission que nous mènerons sans concession, avec des convictions pour apporter un éclairage critique sur l'actualité.
Comme un bruit qui court, sur la brèche et sur le son, pour allumer la mèche des nouveaux possibles.
Charlotte Perry.
Pour ne pas devenir de vieux cons, pour que la radio de service public poursuive sa vocation, auditeurs à vos postes.
Comme un bruit qui court, donc c'est une heure de reportage à échelle humaine tous les samedis à 16h et c'était pendant 5 ans une oreille attentive, sympathique, jamais condescendante sur les luttes partout en France. Et oui, partout en France, y compris dans les campagnes délaissées par les radios nationales. L'une des forces de Comme un bruit, c'est de se souvenir qu'une radio de service public n'est pas là que pour les audiences, mais aussi pour parler de tout le monde, à tout le monde. Et l'attachement des producteurs, en particulier de Charlotte Perry à la cause paysanne, est véritablement salutaire et construit reportage après reportage le portrait désolant d'une France paysanne broyée par les normes et l'agrobusiness, avec la délicatesse d'un micro qui sait toujours tenir la bonne distance, ici en octobre dernier.
La DDTP fait peur aux éleveurs. Certains éleveurs, même avant un contrôle, se sont déjà suicidés. Et oui, il n'y a pas très longtemps, il y a combien, un an ? Un an et demi, oui. Il s'est mis devant son tracteur, il a mis son tracteur en route et le tracteur est passé sur lui. Et quand ils prennent un agriculteur en grippe, en fait, ils vont jusqu'au bout, quoi. Et je sais pas, les gens ne se rendent pas compte de ce que les agriculteurs peuvent vivre à cause de ces normes. Ils se rendent pas compte.
Le travail vous intoxique complètement le cerveau. Et puis il arrive un moment, vous dites non, ça, je veux en sortir. Et puis le cas est suicide. C'est plus une vie, c'est devenu un enfer.
Ils sont sacrifiés pour l'exemple, on va dire. Leurs animaux sont sacrifiés pour l'exemple. Fait que tout le monde tremble autour et personne ne relève la tête.
Ma silhouette se dessine dans la lueur de l'aube jaune, déchire le relief, surplombe un champ, pousse des clones et des quintaux de blé.
Mais c'est sa couverture dense et engagée du mouvement des Gilets jaunes qui aura sans doute valu son arrêt à l'émission. Et c'est d'ailleurs après une émission sur ce sujet le 8 décembre dernier que l'équipe a reçu sa première réprimande en 5 ans et lors d'une convocation à la direction de Radio France où on leur a reproché de jeter de l'huile sur le feu. Laurence Bloch, directrice de France Inter, les aurait qualifiés d'irresponsables.
Comme un bruit qui court, pression sociale et répression policière, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
Depuis plusieurs jours, le soleil est aux abonnés absents dans la capitale.
Des policiers et des gendarmes, beaucoup plus offensifs.
Vous savez, on fait pas du maintien de l'ordre avec des pâquerettes, j'ai envie de dire. Hein.
Allant au contact, comme ils disent.
À 14h23, je me suis pris un impact de flashball sur le haut du visage.
Mais rassurez-vous, les nuages devraient dès demain laisser peu à peu place au soleil pour réchauffer les cœurs.
Les
détonations de grenades lacrymogènes se font bientôt entendre. Des tirs de balles de caoutchouc aussi.
Trois personnes qui sont visées à la tête. Faut arrêter les conneries.
Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit.
T'as pas entendu comme un bruit ? T'as pas entendu comme un bruit ?
Comment ?
On ne fait rien, on ne fait que marcher et on se fait tirer dessus en pleine tête.
Comme un bruit qui court.
L'argument avancé pour la suppression de l'émission, à savoir, je cite, le ratio nombre d'auditeurs coût de l'émission, est assez symptomatique du remplacement d'une logique de service public par une logique commerciale dans les radios d'État, ce qui est assez ironique quand on sait l'attachement des producteurs à partir en terrain justement sur tous ces lieux où le service public est attaqué. Et je pense particulièrement à une série de reportages tout particulièrement touchants sur un EHPAD mené par Charlotte Perry. Mais pourtant, les audiences, ces fameuses audiences pointées par la direction, qui sont quand même de 600 000 auditeurs hebdomadaires, ce qui n'est pas mal pour ce créneau difficile, étaient constantes. Ce qui conduit les trois producteurs à voir dans cette suppression une décision plus politique. Sur un long post sur Facebook, Charlotte Perry condamne, je cite, la chaîne parisienne destinée aux Parisiens que devient France Inter. Les luttes sociales, ça fait un peu tâche entre les paillettes, le champagne et les stars. On nous a dit, c'est anxiogène. La direction, bien sûr, se défend de vouloir censurer ce qu'elle décrit néanmoins comme une émission de niche, une émission ghetto. Et annonce qu'elle réaffectera les moyens, à une grosse émission quotidienne sur l'environnement qui serait, entre autres, proposée aux trois producteurs ou du moins à un ou deux d'entre eux. Nous verrons bien ce que donne cette nouvelle émission et ne lui faisons pas d'emblée les procès en complaisance et en platitude que nous pourrons étayer dès la rentrée. Contentons-nous de déplorer la fin, la vraie cette fois, de l'air mermé qui survivait le samedi après-midi et de l'idée d'une radio de terrain humaine engagée sur France Inter.
Le journal radiophonique amplifié sur Transistor.
Midi et quart sur Transistor, vous écoutez toujours le journal radiophonique amplifié avec ce qui sera sa dernière chronique de l'année, la musicienne Benoît Mahé, c'est parti.
Alors dis-moi Benoît, que se passe-t-il quand tu passes du blues à l'envers ?
Tu sors de prison, ta femme revient et tu retrouves ton job.
Ou je vais dire des trucs simples.
Bon, c'est le dernier JRA de l'année, alors on vous propose pour l'occasion une musicienne un peu spéciale.
Mais quelle musicienne n'est pas spéciale, Marie, au fond ?
On va décortiquer pour vous les musiques des jingles.
Parfois surprenantes.
De ce journal radiophonique ô combien qualitatif. On commence par quoi, du coup, bébé ?
Assez logiquement, par le jingle de la revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et alors là, on commence très fort, directement des gens qui parlent, qui font du talk, comme disent les vrais sur RMC. Gauche, ça fait pro, ça fait beau, ça fait bien. Après, j'avoue, les grosses têtes, c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas, hein, libre à chacun d'écouter les tables rondes où on aurait répliqué ton vieux tonton raciste et schlag un soir de nouvel an.
Et bim.
Et bam.
Ça va déjà trop loin.
Non, en vrai, je l'aime bien ce jingle. C'est comme un petit rappel qu'on commence notre cher live une fois toutes les deux semaines et qu'on est parti et qu'on s'amuse bien. Quand j'y repense un peu, ça m'émeut.
Moi, c'est mignon. Et on a quoi encore comme jingle à trash talker, bebe ?
J'en vois bien, mais c'est mauvaise ambiance.
Oh, c'est la dernière.
Puisqu'il en est ainsi. Que dire ?
Tu sèches ?
C'est-à-dire que bon, moi aussi j'aime bien entendre crier monnaie dans mes oreilles quand on s'apprête à me parler économie. Déjà que la discipline en elle-même met à mal mes pauvres derniers neurones, si en plus le jingle m'agresse de la sorte, on va pas s'en sortir.
Moi je trouve que ça parle beaucoup, mais ça fait peu, hein.
Oh bah si, j'en profite, j'ai un peu de temps, je fais des propositions, ça peut être mieux, ça peut être encore pire, mais j'essaye. Que dis-je madame, je fais.
Ça parle pas de...
faut de la parole, Benoît Padu.
Bah, justement. Voilà, un poil plus subtil, tout le monde connaît le morceau directement. On entend, on fait du son, comme dirait l'autre. Rémi, voilà, tiens, je reprends tes propos. Franchement, ça claque. Est-ce que je suis embauché, Maëlle?
Franchement,
Allez, STP.
Non, on enchaîne. Une dernière petite actu avant de passer à la culture?
Toujours, Maëlle, toujours.
Il faut dire que Rémi est plein de surprises quand il s'agit de nous faire prendre les pieds dans des tapis musicaux chelous. Il y en a eu des belles, des vertes et des pas mûres, tant et si bien que je ne peux pas toutes les lister. Je vous propose donc une petite typologie.
Le tapis mi-remix.
C'est la base, celui qui revient régulièrement déniché dans les fins fonds du web. Ce tapis remix est généralement une obscure reprise DJistique d'une chanson française méga connue, mais ça peut être aussi du classique ou un jingle SNCF.
Je disais, c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
On retrouve tout. Le tapis classique.
Et oui, après le tapis remix, le tapis classique. Des fois pour les grandes occasions, lorsqu'il s'agit d'être grandiloquent ou que l'heure est grave, Rémi dégaine le classique. Qu'il soit guilluré ou tragique, que l'info soit triste ou nette ou rigolote, l'effet est au rendez-vous.
Assuré.
C'est une trouvaille du site L'Usine Nouvelle Scène Lecture.
T'as tué l'ambiance.
C'est Rémi qui a tué l'ambiance. Oui, tu as vraiment utilisé cette musique-là un jour.
Et maintenant,
3 tonnes,
le enfin... tapis cringe.
Effectivement, le tapis cringe, ça c'est la botte secrète de Rémi, son péché mignon peut-être. On ne sait pas d'où il les sort celles-là, mais elles sont souvent surprenantes. J'en ai mis qu'une, parce qu'il faut pas abuser des bonnes choses. Bon, après les pieds dans le tapis, que se passe-t-il? Évidemment, c'est l'édito scientifique. Imaginez le calme d'un laboratoire. Un chercheur muni d'une canne, un tableau noir couvert de craie, en fond sonore les oiseaux d'un campus et une lointaine musique classique jouée au piano. Ce n'était visiblement pas la vision de l'imaginaire scientifique de Léo qui créa ce jingle. Rythmique poussive, mélodie chromatique catastrophique, et vous vous retrouvez propulsé devant le mur d'enceinte d'un festival de techno. Et vous comprenez soudain ce que signifie l'apocalypse. Air-conditioned bunker
where the Norwegians have stored heritage. Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
La première version du jingle était pire.
C'est dire.
C'est dire, c'est dire. Bon, mais il faut qu'on parle d'un autre jingle.
Mais lequel?
Le meilleur des jingles.
Oh!
Je veux bien sûr parler de la culture. Avec ses pincements de guitare aiguë et sa voix toute filante, ce jingle me donne le sourire. Voilà, juste assez énergique pour éviter le petit somme de fin de live lorsqu'on vient à parler de culture, mais bon.
Mais quoi encore?
Mais, il y avait celui d'avant.
Les paupières, les rabais, les perleuses, les pommes à sang, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Dedal, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une valeur.
Là, on y est, du punk bien crade, avec l'énumération d'artistes qui va bien, me rappelant mes doux souvenirs des Bérus, des Salles Majesté ou encore de Trust, je ne pouvais que...
T'en jaillir comme un foufou sur une musique pour babos des années 2000.
Ah, je suis démasqué. En même temps, quoi de mieux que pour sortir de la violence symbolique que de mettre un bon vieux punk derrière les fagots.
J'avoue, y a de l'idée.
Et enfin, une chronique sur la...
Et enfin une chronique sur la radio pour faire méta. Accordéon, xylophone, basse énervée, c'est du folklore, c'est du rythmé. Un peu comme quand vous avez avalé votre quatrième café deux heures et vous fait du réglisse.
Non, Rémi, elle ne parle pas de toi.
On imagine aisément notre animateur préféré sautillant sur sa chaise en découvrant les derniers scandales de la Radio France, ou une création originale d'une rockstar radiophonique, ou une rediff des nuits exceptionnelles. Ça sonne klezmer, ça sonne itinérant, onde courte. Et voilà, comme vous l'entendez, le JRA est musicalement très riche.
Un vrai vivier artistique.
Alors restez à l'écoute parce que chaque année apporte son lot de nouveaux jingles. Et voilà, c'était la dernière musicienne.
Et oui, la dernière musicienne.
Merci beaucoup Maë, merci beaucoup Benoît. Vous écoutiez pour la 53e fois le journal radiophonique Amplifié, avec cette semaine Benoît Auclair, Arthur Guérin, Turc, Colline Lafontaine, Léa Burga et Maë Burla. En préparation du journal, on remercie également chaleureusement Arthur Kramer et Marie Douniac qui n'ont pas pu être à nos côtés aujourd'hui, ainsi que Maxime Seguin qui devait y être mais a été obligé de s'absenter. On remercie chaleureusement Félix Barancier en régie ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidé à installer ce studio et en particulier les techniciens de NS Media. Le journal radiophonique Amplifié, c'est une émission coordonnée par Mathilde Picard et Rémi Cerda qui termine aujourd'hui sa 5e saison sur les ondes de Transistor. L'occasion aussi pour moi de remercier encore une fois les équipes de l'Amplifié qui m'ont accompagné ces 3 dernières années sur ce plateau. Cette émission, c'est un peu devenu l'école du direct de Transistor et c'est un immense plaisir d'y voir affluer année après année, autant de recrues talentueuses et surmotivées, des recrues à qui il est temps de passer la main, et je souhaite à Mathilde bien du plaisir aux manettes de l'Amplifié l'an prochain. Mes derniers mots seront bien sûr pour Félix qui a accompagné l'Amplifié pendant de nombreuses années maintenant, 2-3, derrière la régie et qui aura été à peu près sans faille tout du long de cette aventure. Et puis enfin pour vous, merci d'être à l'écoute depuis 3 ans et puis depuis 5 ans. Et n'oubliez pas de revenir nous écouter encore une dernière fois pour le direct de fin d'année de Transistor. Ce sera le 10 juin dans la soirée.